Lorsqu'on parle de la spiritualité du mariage, on se demande souvent si les pratiques de piété sont nécessaires. Doivent-elles être nombreuses, peu nombreuses? En répondant à cette question, qu'il soit clair qu'il n'y a pas de critères absolus. Une grande liberté est nécessaire dans la vie spirituelle. En tout cas, il ne s'agit pas de remplir la journée d'actes pieux. Il s'agira plutôt d'un effort permanent pour imprégner de la présence de Dieu toutes les activités. Parfois, en offrant au Seigneur ce qui coûte ou qui fait mal. D'autres fois, en s'abandonnant dans les bras de Dieu, plein de confiance et de sécurité, face aux problèmes et aux difficultés. Ou encore, en s'efforçant d'améliorer une vertu précise, ou de surmonter un défaut que l'on n'arrive pas à vaincre. En ébauchant un sourire face à un événement qui dérange, ou en se taisant pour éviter un mot qui pourrait blesser. En sachant se contenir pour éviter un reproche trop sévère. En sachant comprendre, excuser, pardonner. Faisant en sorte que le temps, les talents et les idées servent les autres. Et bien d'autres choses qui font de la maison un foyer accueillant et aimable. Alors, les pratiques de piété sont superflues? Absolument pas. Rien de plus faux que l'attitude de ceux qui pensent qu'il suffit de ne pas faire de choses mauvaises pour accomplir leur devoir d'État. La seule chose qui nous sanctifie, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour exige la fréquentation, la proximité. Cela ne s'obtient qu'en cherchant l'amitié avec Dieu. Je vous ai appelé ami. En montrant notre affection pour tout ce que son amour nous a offert. L'Eucharistie et la pénitence, sacrement qui confère ou qui augmente la grâce sans laquelle nous ne pourrions rien faire de surnaturel. La prière et la mortification, prière du corps, grâce auxquelles nous activons la grâce pour l'approprier à notre vie, la dévotion à Notre-Dame, etc. Les pratiques de piété n'ont pas à interférer sur la vie de famille ni sur le travail professionnel. Il s'agit tout simplement de savoir rencontrer Dieu et le traiter avec confiance dans les événements quotidiens. Par ailleurs, la piété devrait devenir quelque chose de si spontané qu'elles surgissent dans la vie des époux avec le même naturel que l'eau de la source, de sorte que les enfants puissent ainsi suivre l'exemple des parents. Nous pouvons l'apprécier dans l'explication pleine de sens pratique de Saint José Maria Escrivá. Dans tous les milieux chrétiens, on sait, par expérience, les bons résultats que donne cette initiation à la vie de piété, initiation naturelle et surnaturelle faite dans la chaleur du foyer. L'enfant apprend à placer le Seigneur au niveau de ses premières affections, les affections fondamentales. Il apprend à traiter Dieu en Père et la Vierge en Mère. Il apprend à prier en suivant l'exemple de ses parents. Lorsqu'on comprend cela, on voit la grande tâche apostolique que peuvent accomplir les parents, et combien ils sont obligés d'être sincèrement pieux pour pouvoir transmettre, plutôt qu'enseigner, cette piété aux enfants. Et les moyens? Il y a des pratiques de piété, peu nombreuses, brèves et habituelles, qu'on a toujours suivies dans les familles chrétiennes et que je trouve merveilleuses. Le bénédicité, le chapelet en commun, bien qu'il ne manque pas à notre époque, de gens qui attaquent cette dévotion très solide à la Vierge. Les prières personnelles au moment de se lever et de se coucher. Sans doute s'agit-il de coutumes différentes selon les endroits. Mais je pense que l'on doit encourager les membres de sa famille à faire ensemble quelques actes de piété, d'une façon simple et naturelle, sans bigoterie. Nous obtiendrons de la sorte que Dieu ne soit pas considéré comme un étranger, que l'on va voir une fois par semaine, le dimanche, à l'église. Que Dieu soit regardé et traité tel qu'il est en réalité. et ceci également au sein du foyer, car, comme l'a dit le Seigneur, que deux ou trois en effet soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Je le dis avec la reconnaissance et la fierté d'un fils, je continue à réciter matin et soir, à haute voix, les prières que j'ai apprises étant enfant des lèvres de ma mère. Elles me conduisent à Dieu. Elles me font éprouver la tendresse avec laquelle on m'a enseigné à faire mes premiers pas de chrétien. Et, en offrant au Seigneur la journée qui commence, ou en lui rendant grâce pour celle qui se termine, je demande à Dieu d'accroître, dans la gloire, le bonheur de ceux que j'aime spécialement, et de nous garder ensuite unis dans le ciel pour toujours. L'unité dans la vie spirituelle des conjoints. Il est clair qu'on ne peut pas partager la vie spirituelle dans sa totalité. Chacun a reçu de Dieu certaines grâces particulières auxquelles, en toute liberté, il répond d'une manière ou d'une autre. Ni l'un ni l'autre ne doivent apprendre du conjoint les pratiques qu'ils doivent vivre. Aucun n'est un modèle pour l'autre, car le seul modèle pour les deux est Jésus-Christ. Il peut être opportun, sans doute, qu'il y ait une certaine unité et que la spiritualité particulière qu'ils choisissent pour leur vie soit semblable ou même identique, mais ce n'est pas une obligation. En revanche, ce qui est obligatoire, c'est qu'ils se respectent mutuellement et qu'ils permettent à l'autre de vivre la spiritualité qu'il désire. Tout ce qu'ils feront en toute liberté pour réussir une profonde unité spirituelle, l'union la plus complète que l'on peut réaliser, est bon. Cela touche le plus profond de l'âme et constitue un bon point de départ pour aborder les questions qui se poseront à l'avenir. Il y aura une grande paix, fruit de l'Esprit Saint, dans les cœurs de ceux qui cherchent à être unis grâce au lien de la foi et de l'amour de Dieu. Évitons dans ces aspects, comme en tant d'autres, des exagérations. Ce serait par exemple de vouloir que les conjoints avancent à l'unisson tout au long de leur vie spirituelle, ou qu'ils considèrent comme un manque d'unité le fait que l'un prie davantage que l'autre, ou qu'il communie plus fréquemment que l'autre. Les rapports avec Dieu, essence de la piété, sont quelque chose de très personnel. Et l'Esprit Saint peut désirer conduire l'un sur un chemin sans que son conjoint y aille nécessairement, alors qu'ils sont liés par un lien sacré. Par conséquent, si l'un des époux pratique plus assidûment, il ne doit pas pour autant faire des sermons à l'autre. Il est bon, nous l'avons dit, de favoriser la vie spirituelle de l'autre, mais cela doit être fait avec délicatesse et tact. Autrement, on obtient fréquemment des résultats opposés au but recherché. On obtient davantage par le bon exemple silencieux que par la parole insistante et répétée qui conseille, commande, dirige et à long terme fatigue sans produire aucun bénéfice dans le progrès spirituel. La liberté est le fondement de la vie intérieure. Et la réponse au Seigneur doit venir du plus profond de la conscience. On peut aider, mais sans prétendre remplacer ou faire pression sur l'attitude de lui ou d'elle face à Dieu. Si Dieu lui-même a voulu respecter avec tant de délicatesse la libre volonté de la créature, celui qui prétendrait imposer à l'autre ce que l'Esprit Saint ne fait que suggérer agirait mal. Voilà quelques idées qui résument les traits principaux du processus de la sanctification des époux à travers leur vie matrimoniale. Les foyers chrétiens doivent refléter la lumière du Christ et par conséquent, ils doivent être lumineux et joyeux. L'harmonie qui règne entre les parents se transmet aux enfants, à la famille entière et à tous ceux qui l'entourent. Ainsi, dans chaque famille authentiquement chrétienne, se reproduit d'une manière ou d'une autre le mystère de l'Église, institué par Dieu et envoyé au monde comme un guide. L'apostolat dans la vie familiale. Fort des vertus chrétiennes, accomplissant amoureusement la volonté de Dieu, c'est-à-dire cherchant la sainteté, les époux s'incorporent peu à peu à la vie de Jésus et à sa mission rédemptrice. Il s'agit alors d'irradier ce qu'ils possèdent, de refléter à ceux qui les entourent des vertus qu'ils vivent dans leur propre foyer, et s'efforcer d'amener le Christ à tous les coins de la terre, et avec lui la sérénité, la joie et la paix de ceux qui vivent en Dieu. Voilà ce que l'on appelle apostolat, c'est-à-dire la manifestation généreuse du message évangélique par le témoignage de sa propre vie et par la parole qui entraîne sans limiter la liberté. La rédemption du Christ a été surabondante. Cependant, lui-même a voulu faire participer de sa mission tous les baptisés. Ils ont été appelés à être co-rédempteurs. Grâce à l'action du Saint-Esprit, il les vivifie et les entraîne sans cesse vers la sainteté personnelle, leur confiant en outre le salut et la sanctification des autres. C'est pourquoi, chez un chrétien qui vit sa foi avec cohérence, l'existence devient une collaboration avec Dieu, une mission divine et humaine, qui remplit le monde de la présence amoureuse de Dieu. Un merveilleux panorama apostolique s'ouvre devant celui qui ressent dans sa chair la préoccupation pour ses amis, ses parents et ses collègues. Il sait que cette inquiétude positive n'est pas stérile, qu'il n'est pas seul face au mal, à l'erreur, ses défections et ses faiblesses propres comme à celles des autres. À tout moment, il peut éprouver et faire ressentir aux autres la proximité de l'amour de Dieu fait homme. Jésus, notre Seigneur, est un Dieu tout proche, qui nous a appelés amis. Mais cette honorable appellation, ami de Dieu, est un grand compromis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Donner sa vie, c'est renoncer à soi-même et se livrer au service des autres. C'est être disposé au sacrifice, petit ou grand, pour le bonheur des autres. C'est ne pas avoir de problèmes personnels pour pouvoir porter sur nos épaules les problèmes de ceux qui nous entourent et les aider à les résoudre. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi du Christ. Car celui qui aime autrui a de ce fait accompli la loi. L'amour est donc la loi dans sa plénitude. Dans le monde qui nous entoure, il y a de grands besoins matériels, beaucoup d'ignorance, un grand manque de foi et de vision surnaturelle. Un chrétien conséquent avec sa foi ne verra en tout qu'un appel à la responsabilité personnelle et tâchera d'y porter remède. Il faut que les problèmes des autres soient nos problèmes. La fraternité chrétienne doit être profondément ancrée dans nos âmes, de sorte que personne ne nous soit indifférent. Il y a un autre mal plus profond, même si en apparence, il est moins angoissant pour la plupart des gens. Il est pénible de constater la perte de moralité dans les mœurs. Projetez impunément dans les rues, le cinéma, les moyens de communication. Le peu de valeur accordée à la vie humaine, qui se mesure non seulement dans les crimes abominables, et dans les guerres injustes, mais aussi dans l'attaque systématique contre l'existence de tant d'êtres humains tués dans le ventre de leur mère. La corruption de la jeunesse et même de l'enfance par la drogue et le vice. La dégradation de la femme devenue un objet érotique ou une enseigne pour attirer des clients dans n'importe quelle affaire. La déviation de la mode qui rend parfois difficile de distinguer une femme de mauvaise vie d'une mère chrétienne lorsqu'elle se croise dans la rue. Tous ces maux sont présents dans le monde et l'on entend une clameur demandant aux chrétiens de collaborer de toutes leurs forces pour y apporter une solution. Beaucoup ont répondu à cette demande par un don total de leur vie, dans le célibat apostolique ou dans d'autres voies de sainteté, comme le sacerdoce ou la vie religieuse. Et cependant, il faut encore bien plus. La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Une majorité se demande « Que pourrais-je faire ? Ma profession, ma famille m'empêchent de me consacrer au service de ces beaux idéaux. Je ne peux pas collaborer pleinement à la reconstruction spirituelle et morale du monde. Devrais-je tout quitter pour accomplir le précepte de la charité ? Certainement pas. L'Église demande à ses enfants que, depuis la place qu'ils occupent, sans abandonner ni leur travail ni les engagements pris, ils se consacrent entièrement à améliorer le milieu qui les entoure, le plus proche. Ce proverbe chinois est toujours vrai, si chacun balaye devant sa porte, les rues seront propres. Il n'est pas nécessaire de faire des choses spectaculaires pour servir Dieu et les autres, pour placer le Christ au milieu des activités humaines, pour diviniser le monde. Cela peut être fait avec naturel, avec simplicité, en vivant exactement comme vous le faites au milieu du monde, adonné que vous êtes à votre travail professionnel et aux soins de votre famille, en prenant part à toutes les aspirations nobles des hommes, en respectant la légitime liberté de chacun. Ce serait une folie que tous les chrétiens, par un supposé zèle apostolique, abandonnent leur famille et leur lieu de travail. Si chacun accomplit son devoir là où il a été placé avec ses capacités, sa préparation, ses talents, et surtout selon sa vocation, la société entière se transformera d'une manière efficace, positive et rapide. Mais ne pensez pas seulement à vous. Ouvrez grand votre cœur pour qu'il puisse contenir l'humanité entière. Pensez avant tout à ceux qui vous entourent, à vos parents, à vos frères, à vos amis, à vos compagnons, et cherchez comment vous pourriez les amener à approfondir leur amitié avec notre Seigneur. Si ce sont des personnes droites et honnêtes, capables de s'approcher davantage de Dieu, placez-les de façon spéciale sous la protection de Notre-Dame. Et priez aussi pour tant et tant d'âmes que vous ne connaissez pas, parce que nous autres hommes, nous sommes tous embarqués sur le même bateau. Soyez loyaux et généreux. Nous faisons partie d'un seul corps, le corps mystique du Christ, de l'Église sainte à laquelle sont appelés bien des hommes qui cherchent la vérité avec droiture. C'est pourquoi nous avons la grave obligation de montrer aux autres la qualité et la profondeur de l'amour du Christ. Le chrétien ne peut être égoïste. S'il l'était, il trahirait sa propre vocation. Ce n'est pas une attitude chrétienne que de se contenter de conserver son âme en paix, fausse paix que celle-là, et de se désintéresser du bien des autres. Si nous avons accepté l'authentique signification de la vie humaine, que la foi nous a révélée, il est impensable que nous restions tranquilles, convaincus que nous agissons bien, alors que nous ne nous efforçons pas de façon pratique et concrète d'approcher les autres de Dieu. Il correspond donc à la mission apostolique du chrétien de très bien accomplir ses obligations professionnelles, familiales et sociales, sachant qu'elles représentent un service du prochain et de l'Église. Toute activité humaine peut devenir un moyen pour améliorer la communauté. Concentrons-nous maintenant sur la vie familiale. Nous avons déjà vu comment, au sein du foyer, l'on peut exercer toutes les vertus chrétiennes. Évidemment, dans le foyer aussi, on peut accomplir ce que nous sommes en train de dire sur la dimension apostolique de toute la vie. Dans la famille, il y a un champ d'action et une excellente école d'apostolat lorsque la religion imprègne les vies et les transforme peu à peu. Un très bel exemple nous est donné par cette mère de trois garçons, déjà adolescent, qui a pris la résolution et l'accomplit depuis quelques années, d'avoir avec eux, leurs amis et leurs fiancés, une réunion hebdomadaire où l'on étudie avec sérénité et profondeur le catéchisme de l'Église catholique. Maintenant, les jeunes eux-mêmes, tous universitaires, réclament la réunion si un jour elle n'a pas pu avoir lieu. Ce n'est pas une obligation, mais ils attendent la réunion parce que cette mère prépare bien ses cours et expose avec simplicité et clarté, dans une ambiance de dialogue amical, qui a cassé doucement la fameuse barrière entre les générations. Ou encore ces parents qui, préoccupés par l'absence de formation religieuse de leurs enfants dans les écoles, font toutes les semaines le trajet vers une ville proche où ils ont trouvé des cours de catéchèse qui leur transmet une bonne formation. Il est fondamental que les parents soient les premiers éducateurs des enfants, par l'exemple et par la parole, grâce à leurs vertus humaines et surnaturelles, grâce à leur amour de Dieu et leur amour des autres. Le foyer est un terrain très fertile pour y semer beaucoup d'enseignements. C'est ce qui arrive par exemple lorsque les enfants apprennent, par le comportement et les propos de leurs parents, à penser aux autres, ce qui est plus facile dans une famille nombreuse où l'égoïsme devient assez impraticable, à ressentir comme leur les préoccupations de leurs amis, à ouvrir les yeux et le cœur à tout idéal noble. Que dès leur premier contact avec la société, dans l'école et dans la rue, ils sachent aimer les autres sans distinction de couleur, de classe ou de race, d'idéologie ou de religion. Savoir capter la transcendance de la douleur du prochain, des tragédies à tout le niveau. Aujourd'hui, où il est si nécessaire de rappeler les valeurs chrétiennes, il est nécessaire qu'ils apprennent la solidarité absolue avec les problèmes des hommes. Il serait déformant, par exemple, qu'un enfant voit son père s'enthousiasmer en lisant le journal et découvrant les prix Nobel, les Oscars, dont les noms changent et sont oubliés d'une année à l'autre, ou que deux artistes divorcent et se remarient, et tant d'autres nouvelles qui réjouissent ou parfois désespèrent, suivant les idées de chacun. Il serait grave que l'enfant voie son père sans réaction face à la mort de 500 soldats, ou la famine, ou ne fasse pas la différence entre la mort d'un rat et celle d'un homme, comme si les événements étaient du même ordre. L'enfant apprendra-t-il à travers l'exemple vivant de ses parents la véritable hiérarchie des valeurs dans l'analyse des problèmes de la société de son temps? Nous pouvons assurer que l'éducation des enfants dépend en grande partie de la manière de lire le journal et de regarder la télévision, des livres et des revues qui entrent dans la maison, des émissions que l'on regarde.